Bien, écoutez, je suis très heureux d'être avec vous encore ce matin. Hier soir, nous avons commencé notre sujet sur l'actualité, quand l'actualité rejoint la Bible. Et nous avons vu plusieurs signes, en particulier les signes de Noé et les signes de Lot, et les signes que Jésus a développés aussi en Matthieu 24. Donc je renvoie à l'enregistrement pour ceux qui n'étaient pas là. Vous pouvez avoir la totalité de ce que nous avons partagé. Je voudrais poursuivre donc par cette première référence tirée de l'évangile de Luc au chapitre 13, qui est une parabole de Jésus, qui nous dit « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Et ce deuxième texte, qui est une prophétie du Seigneur Jésus, donnée plus tard dans la chronologie par rapport à la parabole, concernant Israël, son peuple, il dit « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. » Je vais parler ce matin sur les signes des temps, ou quelques-uns en tout cas, qui sont apparus et qui sont fondamentaux concernant Israël. Le figuier dans la parabole du premier texte représente Israël. Et quand nous prenons et lisons dans l'évangile ce qui concerne le figuier, cela touche toujours le peuple d'Israël. Un figuier planté dans la vigne, dans une vigne, celle de Dieu. Le texte de la parabole nous dit que Jésus est en activité en tant que prophète, en tant que fils de Dieu, depuis 3 ans. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit et je n'en trouve pas. La nation d'Israël, et c'est la parabole qui le dit, devait porter du fruit, c'est-à-dire devait reconnaître ce Messie tant attendu que les prophètes avaient annoncé, mais là ils ne le reconnaissent pas en tant que nation, parce que individuellement certains le reconnaissent, et le fruit qui devait être porté est celui de la repentance, c'est-à-dire de reconnaître l'œuvre même du Messie et de se repentir de leurs péchés. C'est ce que dit le contexte, car le passage qui précède cette parabole est deux histoires que nous connaissons, celle de ces Galiléens qui ont été massacrés alors qu'ils faisaient un sacrifice, et la tour de Siloé qui est tombée sur 18 personnes et qui les ont tués. Avec cette interpellation pour ces deux événements, ces gens étaient-ils de plus grands pécheurs que les autres, puisqu'ils sont morts dans de telles circonstances? Et Jésus va répondre par deux fois, non. Mais moi, je vous le dis, et il s'adresse à Israël, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et la parabole vient tout de suite après cet épisode qui parle de cet appel au peuple à se repentir. Oui, ce peuple de Dieu, mystérieux appel de Dieu, que nous ne pouvons pas expliquer en Abraham, devait porter ce fruit, devait sustenter quelque part les autres nations de la présence même de leur Dieu, manifester cette divinité extraordinaire qu'était l'Éternel, leur Créateur et notre Créateur. Le peuple d'Israël a été souverainement choisi par Dieu pour recevoir d'une part les bénédictions, ses bénédictions, et en même temps pour les partager à ceux et les montrer à ceux qui étaient autour, ainsi faire rayonner la puissance de l'Éternel. Mais il y a un ultimatum dans la parabole, parce qu'il semble que quelqu'un dise « Mais attends un peu, attends une année, laissons encore un peu de temps, sinon, s'il ne se passe rien, alors tu le couperas. » Une année, comme une épée de Damoclès. Et comme nous nous trouvons 3 ans après le démarrage du ministère de Jésus, c'est Jésus lui-même qui le dit, nous supposons que l'année qui est demandée va dépasser de 6 mois la crucifixion de Jésus, puisque Jésus sera crucifié trois ans et demi après le départ et le début de son ministère. Comme quoi les six mois qui vont suivre la crucifixion et la résurrection devaient laisser, avec les signes qui s'étaient accomplis, en particulier la mort de Jésus, l'occasion à Israël, les Galiléens, les Judéens, dans le contexte de la parabole, c'est-à-dire tout le peuple dans son ensemble, à trouver et à reconnaître le Messie promis. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Et dans un texte des Actes des Apôtres, nous voyons Étienne qui est lapidé, peut-être autour de six mois environ, après la mort de Jésus. Cela me plairait de l'imaginer ainsi. Pourquoi ? Parce que Étienne dit une parole incroyable. Il dit à ceux qui sont en train de le lapider ou juste avant d'être lapidé, « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit et vous rejetez ce qui vous a été annoncé. » Étienne met ainsi, à mes yeux, une fin à l'ultimatum. Et ce n'est qu'après la mort d'Étienne et qu'il va se passer un événement, celui dont on a parlé hier avec les jeunes et dont j'ai un petit peu nommé, autour de l'an 70, la destruction de Jérusalem, la destruction du Temple et la fameuse diaspora du peuple juif. À partir de ce moment-là, ils ont été coupés, c'est-à-dire littéralement arrachés de la vigne de Dieu, telle que Jésus l'avait annoncé après cet ultimatum, portés jusque dans les nations, et Jésus avait bien annoncé, jusqu'à ce que le temps des nations, c'est le deuxième texte que nous avons lu, soit accompli. Ce qui veut dire qu'il y avait donc une fin à la diaspora annoncée par Jésus. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais revenons un tout petit peu sur une prophétie donnée par Moïse lui-même, qui dit dans le Deutéronome, « Dieu, l'Éternel, te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité. Là, tu serviras d'autres dieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants et ton âme souffrante. » Il ne s'agit pas ici de la sortie babylonienne ou assyrienne au temps où ils ont été déportés. Non. Nous avons ici affaire à toutes les nations. Comme Jésus l'avait annoncé partout, vous serez dispersés. Et pas simplement en Assyrie ou en Babylonie. Et durant ce temps de dispersion parmi les nations, la terre d'Israël fut, elle, occupée par différentes nations, jusqu'au dernier occupant qui fut, et vous l'avez connu pour ceux qui sont plus anciens parmi nous, le Royaume-Uni. La dernière expression de Jésus, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, je l'ai évoqué, ne laisse aucun doute sur le fait que l'Israël de Dieu, le figuier coupé, serait à nouveau remis sur sa terre, dans la vigne de l'Éternel. C'est bien ce qui se passe 2000 ans plus tard, lorsque ce 14 mai 1948, David Ben-Gurion, dans son discours proclamant l'État d'Israël indépendant, disait « L'État d'Israël sera ouvert à l'immigration juive et aux juifs venant de tous les pays de leur dispersion. Il veillera au développement du pays pour le bénéfice de tous ses habitants, dans le but de réaliser le rêve des générations passées, la rédemption d'Israël. » Nous avons vécu, moi je n'étais pas né, mais ceux qui ont un peu des têtes plus blanches que moi, ont vécu un événement extraordinaire qui, à mon sens, est le déclenchement du compte à rebours prophétique de Dieu qui éteint depuis la diaspora de 70, pendant tous ces siècles, 20 siècles, est resté silencieux. Avec des prophètes qui avaient annoncé des choses qui allaient se réaliser que 20 siècles plus tard. Avec tout ce temps que l'on a, du Moyen-Âge, etc., la Réforme, etc. Ça, c'était un temps qui était un petit peu d'attente. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ce 14 mai 1948. Alors ce qui est d'autant plus terrible en même temps, c'est de se rappeler, parce que nous ne devons pas oublier, que c'est à cause, j'ose pas dire grâce, à ce qui s'est passé sous le Troisième Reich, où ce peuple juif, méprisé, haï, alors dispersé parmi toutes les nations, a failli être exterminé. Mais il est resté un reste. Et Dieu s'est servi de cette attaque diabolique sur ce peuple par un homme dont on a pensé à un moment donné qu'il pouvait être l'Antichrist. Il en avait toute la puissance. Il pouvait se prétendre comme tel. Mais il ne l'était pas. Preuve en est, il est mort. En tout cas, nous sommes et nous avons continué l'histoire. Mais il en avait la puissance. Et Dieu, dans sa bonté, a été jusque à laisser faire cela à son peuple pour que celui-ci retrouve sa terre, sa paix, sa prospérité. Souvent, il est parlé dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, d'un reste. Ésaïe en parle assez souvent. Dieu va jusque loin quelque part, mais toujours un reste est là. Un rejeton repart. La Shoah. Et quand les Nations Unies, autour de 1900, déjà bien avant 40, ont réalisé qu'Israël devait être à nouveau un pays donné aux Juifs, eh bien c'est au moment où effectivement ils ont vu et découvert ces choses-là qu'ils ont dit « stop, ça suffit, maintenant il faut faire quelque chose de plus précis ». Entre parenthèses, si vous relisez un petit peu les histoires, à la fin du 19e siècle déjà, certains juifs ont commencé à revenir dans leur pays, à replanter, etc. C'était des petits hameaux, des petites maisons comme ça qu'ils construisaient. Ils étaient très très peu nombreux. Mais nous allons le voir, il s'est passé suite à cela des choses extraordinaires. La question que Ésaïe a posée, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un coup, c'est-à-dire rapidement, ce qui fut le cas pour la nation d'Israël. Mais regardons d'autres prophéties, données bien des siècles avant, presque 2700 ans avant. Jérémie, c'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël ». Mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront leur pays. » Vous remarquerez, n'est-ce pas, que avant cela, la base de la puissance de l'Éternel sur son peuple, c'était la sortie d'Égypte. Racontez cela à vos enfants et à vos petits-enfants, qu'ils n'oublient pas ce que Dieu a fait pour eux. Eh bien, la norme, à partir de 48, sera différente. Elle sera, souvenez-vous, dites à vos enfants et à vos générations ce que Dieu a fait en vous ramenant dans votre pays, après toutes ces années, ces siècles d'errance dans les pays étrangers. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, dit encore Jérémie, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, c'est-à-dire la Galilée, les royaumes du Nord et les royaumes du Sud, de la parabole que nous avons parlé du figuier, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Zacharie n'est pas en reste non plus. Je les disperserai parmi les peuples, au loin ils se souviendront de moi, ils vivront avec leurs enfants et ils reviendront. Et l'espace ne leur suffira pas. Et nous voyons aujourd'hui la problématique en Israël. Je ne fais pas de politique, mais c'est bel et bien un problème. L'espace ne suffit pas. Tant les Juifs qui ont envie de revenir veulent venir et sont là. Mais il faut bien les accueillir, n'est-ce pas? Ézéchiel disait « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays ici. Volontairement, je prends ces prophètes, et vous voyez qu'il y en a plusieurs, ils sont nombreux. C'est vraiment pour que nous comprenions que Dieu n'a pas lésiné sur la prophétie un peu pour dire à son peuple, soyez patients, les choses vont changer. Enfin, quand ça faisait 20 siècles qu'ils étaient partis, au début du 20e siècle, ils pouvaient se dire, mais Seigneur, quand ? Comme d'ailleurs, ça faisait près de 20 siècles des premières prophéties concernant la venue première de Jésus, qui était attendue et qui a tardé. Et même certains, ça a tellement tardé qu'ils l'ont oublié. Peu l'ont reconnu. Comme toutes les prophéties dont nous avons parlé hier soir et qui vont se réaliser tout autant. Car la parole de Dieu est fidèle. Et lorsque nous jetons un regard en arrière, nous nous rendons compte que les années 90 ont accentué un petit peu plus ce retour. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la chute du mur de Berlin en particulier. Vous vous souvenez de ces événements qu'on a vécu en direct et qui ont fait qu'il y a eu une ouverture importante et exponentielle des Juifs vers leur pays, de ces pays-là. Je me souviens d'ailleurs avoir été frappé, parce que c'est une image qui m'est restée à l'esprit, alors que je regardais les informations, de voir ces personnes débarquer à l'aéroport de Tel Aviv, en queue-leu-leu, n'est-ce pas, arrivant dans un grand hall de l'aéroport, et la caméra a focalisé et a zoomé sur un panneau où il y avait noté Exode 90 et une flèche. Voilà le rapport qui a changé, comme le prophète l'avait dit. Ce n'est plus l'exode de l'Égypte. Maintenant, c'est l'exode suite à la Shoah, suite à la Deuxième Guerre mondiale. Exode 90. Une autre prophétie importante à signaler. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel d'Ézéchiel. En rassemblant la communauté d'Israël de tous les peuples chez lequel elle est éparpillée, je manifesterai à travers eux ma sainteté aux yeux des nations. Les Israélites habiteront leur territoire, celui que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité. Ils construiront des maisons, planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'aurai mis en œuvre mes jugements contre tous ceux de leurs voisins qui les méprisent. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel, leur Dieu. Prophétie qui n'est pas complètement réalisée. Surtout la dernière phrase. J'y reviendrai dans un petit moment. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse. Comme cela est dit dans le prophète Ézéchiel, Dieu rappelle bien qu'il a donné son peuple, le territoire, à Jacob. Mais bien avant Jacob, c'était bien sûr Abraham. Connaissons Genèse 12. Va dans de ton pays, vers le lieu que je te montrerai, et là tu t'y établiras. Et Abraham, qui était un Irakien, on dirait aujourd'hui, est parti et est allé s'installer en Canaan. C'est-à-dire dans le pays, disait Dieu, que je te montrerai. Et cette promesse, bien évidemment, a été rappelée à Isaac, son fils, en Genèse 26, versets 3 et 4, pour ceux qui prennent des notes. Donc cette alliance et cette promesse de Dieu est très claire quant à la légitimité des descendants d'Abraham à posséder le pays que Dieu a promis, ce pays qui était précisément délimité par l'Éternel. Et nous le voyons dans l'Ancien Testament. C'est assez clair. Alors on peut s'interroger, qu'en est-il des peuples arabes ? Ce sont des cousins d'Israël, à travers la descendance d'Ismaël, enfant d'Abraham avec la servante d'Égypte, Agar. Mais n'oublions pas que Dieu leur a aussi fait une promesse. Mais celle-ci ne consiste pas du tout à posséder une terre délimitée et précise, comme pour Abraham, mais la promesse qui leur a été faite est celle d'avoir une descendance incalculable. Tout comme d'ailleurs l'avait reçu Abraham, qui lui avait une double promesse, à la fois le lieu et en même temps la descendance, comme les étoiles du ciel, tu ne pourras pas la compter, n'est-ce pas ? Oui, je te multiplierai à l'extrême, dit Dieu à Agar dans le désert et à son fils Ismaël que Abraham avait chassé. Voilà ce que je te promets, tu ne mourras pas ici dans le désert, c'est l'ange de l'Éternel qui est précisément descendu auprès d'Agar pour lui dire et donner cette promesse à Ismaël. Et nous le voyons, toutes ces promesses se sont bien réalisées et fidèlement accomplies. De nos jours, les pays arabes constituent environ 175 millions d'individus. Et ils se sont élargis, ils se sont installés là où ils ont trouvé leur place, sans que ce soit délimité par Dieu lui-même. Ils ont commencé par l'Arabie Saoudite, là où se trouvait apparemment le désert où Agar et Ismaël ont été chassés. Et puis de là, ils se sont élargis et implantés dans tout le nord de l'Afrique en particulier aussi. C'est fait. Aujourd'hui, c'est fait. Ils sont nombreux, comme Dieu leur avait dit. Alors que nous avons toujours autour de 6-7 millions de personnes en Israël. Il y a un rapport qui est assez large, n'est-ce pas? Mais la promesse, et je fais une autre parenthèse, que Dieu avait faite à Abraham, « Regarde les étoiles du ciel, tu ne pourras pas compter ta descendance », elle est à la fois physique sur les descendants charnels d'Abraham, les Juifs, mais elle est aussi spirituelle, car les nations sont des enfants d'Abraham par la foi, selon ce que dit Paul. Nous faisons partie donc de la descendance d'Abraham aux yeux de Dieu. Lorsque nous considérons la superficie des États arabes par rapport à celui d'Israël, le rapport est aussi éloquent. Vous le voyez, la superficie est à peu près celle des États-Unis, pour celle où habitent les 175 millions environ d'individus descendants d'Ismaël, et à peu près 3 départements français pour le territoire d'Israël, qui auraient dû être un peu plus larges, mais ils n'ont pas conquis tout ce que Dieu leur avait donné. Voilà, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, on peut quand même s'interroger comment, aujourd'hui, et je ne fais pas non plus de politique ni de provocation volontaire, hein, c'est dans un esprit de fraternité aussi et de paix. Mais comment les musulmans peuvent-ils aujourd'hui revendiquer la terre d'Israël et en particulier Jérusalem, ville que David avait conquise, ses ex-jébusiens, et qu'il avait lui-même, dans laquelle il avait lui-même fait son quartier général, David? Non, elle n'a jamais été la capitale d'un peuple arabe, musulman. Elle a été d'abord la ville de Dieu. Oui, Jérusalem est citée plus de 800 fois dans l'Écriture, alors qu'elle l'est très très peu de fois dans le Coran en particulier. Dont 350 versets dans l'Écriture sont des passages prophétiques en rapport avec le futur de cette cité. Elle est le cœur spirituel de toute l'histoire juive. Elle appartient à Israël, elle est sa capitale depuis plus de 3000 années, sauf ce temps des nations où Israël est parti et où les nations pendant 20 siècles l'ont occupée. Mais Dieu l'avait voulu ainsi. Occuper un temps, ça ne veut pas dire la prendre pour toujours. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a des problèmes. On le voit bien, politique aujourd'hui. Deux Chroniques 6:6 nous dit « J'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside. » Voilà ce que disait Dieu. Alors ce déclic prophétique de 1948 nous permet de savoir, comme nous l'avons vu hier soir, ce texte de Paul, en quel temps nous sommes. Toutes ces prophéties se sont réalisées. Nous y sommes. Le calendrier de Dieu est reparti. Et beaucoup de prophéties se sont réalisées, entre autres celle-ci. L'eau jaillira dans le désert, les ruisseaux dans les plaines arides, la terre brûlante deviendra un étang, et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, pousseront des roseaux et des joncs. Oui, grâce à la richesse souterraine en eau que les Juifs, en retour d'exil, en tout cas de la diaspora, ont découvert, et qu'ils ont su exploiter au mieux, le pays a reverdi, ce que ne faisaient pas les nations qui s'y trouvaient, en particulier les peuples arabes, qui étaient plus nomades, qui ne cultivaient pas, qui ne cherchaient pas les richesses souterraines. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Prophétie d'Ésaïe, 8 siècles auparavant. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Souvenez-vous de Jacob, il était question dans une prophétie pour sa terre en particulier. Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Vous connaissez les oranges de Jaffa en particulier, les pamplemousses, certains sont allés en Israël aussi, et ont vu cela. Moi, j'ai la joie d'y aller aussi, et de voir ce désert qui a refleuri, et ils sont fiers, n'est-ce pas, là-bas, d'avoir fait ce travail, à travers les kibboutz en particulier, hein, cet organisme qui était assez fabuleux. Alors, il y a une boutade ou une blague en Israël qui est très connue et qui dit que Moïse se serait trompé en conduisant le peuple hébreu dans le seul coin du Proche-Orient où il n'y a pas de pétrole. Alors ils en sourient aujourd'hui. Sans oublier qu'en fait, le peuple qui était promis était beaucoup plus large, sous David en particulier, il a été perdu après, mais ils avaient une grande partie de l'Arabie Saoudite, s'ils l'avaient gardé, soit dit en passant. Mais cette boutade nous dit un petit peu ça. Seulement depuis quelques années, quelques décennies seulement, donc bien après 48, une prophétie semble bien être en passe de se réaliser. Celle que Jacob avait donnée à ses fils avant de mourir, dans la Genèse. C'est pas jeune ça. Hein. Et en particulier, celle donnée à Joseph, son fils. Voici ce qu'il est dit. « C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. » Et un peu plus loin, dans une autre prophétie, il nous est dit « Son pays recevra de l'Éternel un signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, et les meilleures eaux qui sont en bas. » Et sur Zabulon et Issachar, Jacob avait prophétisé ceci, « Ils appelleront les peuples sur la montagne, là ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » On pourrait se dire, voilà une prophétie étonnante, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis laissé entendre dire, et j'ai vu dans une revue très sérieuse, celle de l'Appel de minuit, que vous connaissez peut-être, de Wim Malgaud, qui est une revue concernant les signes des temps sur Israël, et ils sont très actifs à ce sujet-là, qui donnait cet article en montrant que dans le bassin du Levantin, appelé ainsi, au large de la côte au-dessus de la bande de Gaza, des gisements de gaz et de pétrole ont été découverts en 2009. Mais en 2014, Israël a découvert un gisement de gaz encore plus important depuis les 10 dernières années de recherche. Et c'est en 2019, cette année, d'après l'article, que l'extraction devrait commencer. Israël est passé en l'espace de quelques années seulement de la pénurie à l'abondance. Ils ne peuvent plus dire de Moïse, tu ne nous as pas envoyé dans un pays où il n'y a pas de pétrole. L'abondance des mers, prophétie peut-être de Jacob à Zabulon, qui se réalise. Ces découvertes sont gigantesques et elles changent radicalement la situation, d'après l'article, géopolitique de la région et au-delà. Car Israël, avec ça, pourra devenir totalement autonome et n'aura plus besoin des autres nations. Il faut aussi signaler une production qui est mondiale en Israël et qui rassemble d'énormes richesses, celle du diamant. La bourse israélienne du diamant est la plus grande et le plus grand centre de commerce de diamants au monde. Ils ont aussi rassemblé ces richesses-là. Et que dire de l'économie d'Israël qui est devenue en quelques décennies seulement, après 48, une puissance au Moyen-Orient? Car nous notons que dans le domaine de l'armée et de l'armement, l'arme nucléaire est en possession d'Israël. Ce qui, bien évidemment, le rend aujourd'hui quasiment intouchable. Sauf, bien sûr, une expansion d'un conflit mondial dans le domaine du nucléaire. Elle est aussi une poudrière pouvant déclencher à tout moment une guerre mondiale. Nous le savons et nous le voyons. Israël est au centre du monde. Non pas quand on fait quand on étale l'Atlas, il se trouve quasiment au milieu, vous le remarquerez, mais il est aussi dans le domaine politique, dans le domaine religieux, dans le domaine des découvertes. Il y a une réelle bénédiction, on ne peut pas l'enlever, on ne doit pas l'enlever. Israël reste un signe des temps. Je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Église a remplacé Israël. Ça ne tient pas pour moi dans l'Écriture. L'apôtre Paul le dit. Est-ce que Dieu a oublié son peuple? Loin de là. Loin de là. Non. L'Église est une parenthèse, certes, mais l'Israël est toujours là, quelque part. Comme pendant le temps de la diaspora, où on avait l'impression que les Juifs allaient être exterminés. Ils sont revenus. Et Dieu va se servir d'Israël. Dieu se sert d'Israël, comme il s'en est toujours servi, pour rendre attentif Israël lui-même, mais aussi les autres nations. Et tout ce que nous voyons là, tout ce qui s'est passé, doit nous rendre attentifs et nous dire, nous savons en quel temps nous sommes. Nous ne sommes pas loin d'un événement important. J'en suis personnellement convaincu. Toutefois, il semble bien qu'il faille s'attendre à des troubles, selon une autre prophétie. Dans Zacharie, encore une fois, il nous dit « Je ferai, et c'est Dieu qui parle, de Jérusalem, une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentours. Et aussi pour Juda, dans le siège de Jérusalem. Il y aura donc quelque chose de militaire contre cette ville. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » On parlera cet après-midi un peu plus longuement de la mondialisation, mais aujourd'hui, les nations peuvent être facilement représentées. Pas besoin que chacun y amène sa petite armée, hein, ne serait-ce que par les casques bleus, qui représentent déjà une bonne partie, plus les autres qui pourraient venir. Attention, nous sommes ici dans une prophétie qui n'est pas réalisée, donc nous devons rester très prudents, mais en même temps, nous sommes encore avertis, parce que ces choses-là vont arriver, parce que Dieu l'a écrit. Alors, avant de terminé, je voudrais encore citer deux autres passages. Tout d'abord, la suite de Zacharie. « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, c'est-à-dire toutes les armées. » Les chevaux représentent les armées dans l'Ancien Testament. « Et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. » En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà le fameux fruit attendu par le vigneron de la parabole. Il n'est pas encore venu. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Et il va venir. Ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la repentance, le fruit qu'attend Dieu de son peuple. Et quand ce peuple, en tant que nation, reconnaîtra le Messie, alors, oui, là, nous comprendrons qu'il se passe un événement fort. Et c'est en train de se passer. Il y a des Juifs orthodoxes, très engagés, qui ont reconnu le Messie, mais disent pour certains, ce n'est pas encore le temps et le moment de le manifester. J'ai des amis qui sont un peu, qui vont là-bas de temps en temps et qui me rapportent un peu quelques événements de ce type-là. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Je ne sais pas où en sera l'Église quand ça va se passer, si elle sera enlevée avant ou pas. Là, on est dans un autre domaine. Mais qu'importe. Ce sont des choses que nous, que le monde verra, que les nations verront. Si l'Église n'est pas là, les autres le verront. Alors, je termine encore par ce verset. Alors oui, encore celui-ci, je l'avais oublié. C'est Romain, parce que j'ai parlé de Romain tout à l'heure, mais il faut quand même le mettre en place aussi. Par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Vous vous souvenez, hein, le figuier est exclu. Je passe la main aux païens, et c'est Paul et Pierre qui vont démarrer, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Et c'est Paul qui parle. Alors, voyez le figuier, dit Dieu, c'est le Seigneur qui parle, et tous les arbres. Donc ça veut dire tous les pays. Voyez Israël et voyez tous les autres. Et regardez l'actualité. Voilà ce que Jésus nous invite à faire. Dès qu'ils ont poussé, et il parle du figuier, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche.
De même, quand vous verrez ces choses arriver,
sachez que le royaume de Dieu est proche. Mais quelle délivrance, n'est-ce pas? Car quand ces choses arriveront, nous serons alors pour toujours dans la présence de Dieu. Eh bien, que le Seigneur nous aide à prendre conscience de ce qui se passe. Ne soyons pas avares, ne soyons pas dans notre petit monde d'église. Regardons autour de nous, comprenons l'actualité et en lisant l'Écriture, elle s'éclairera. Oui, l'actualité rejoint la Bible. Prions encore. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ces textes que nous avons pu rappeler. Combien tu es fidèle, Seigneur, tu n'oublies pas ce que tu as dit. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit ses effets. Combien nous voyons, Seigneur, la puissance de cette parole. Et nous te prions pour ces temps que nous vivons, où nous attendons encore, Seigneur, la réalisation de nombreuses prophéties. Mais nous voyons que les choses s'accélèrent, nous le sentons bien, Seigneur. Alors, donne-nous de saisir mieux les choses encore, afin que nous puissions d'une part nous tenir prêts, comme tu nous le demandes, mais aussi de pouvoir avertir nos contemporains lorsque nous parlerons de toi, en leur montrant tout cela, en leur montrant ta fidélité et ta puissance à l'œuvre. Oui, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni pour toutes ces choses qui nous encouragent à la persévérance. Au nom du Seigneur, je te prie. Amen.